Bien, bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous. La dernière fois que j'étais là, c'était dans la salle à côté. Voilà. Et ça me fait plaisir de me retrouver au milieu de vous ce matin à nouveau. C'est toujours une joie de pouvoir partager la parole avec des frères et sœurs et en particulier avec des voisins. C'est une joie toute particulière. Voilà, vous avez entendu ce texte et généralement, si on propose d'ouvrir le livre de l'Ecclésiaste, à quoi pense-t-on en premier lieu, avant de penser à ce passage que nous avons lu, qu'est-ce qui vient à l'esprit d'ordinaire en pensant à l'Ecclésiaste? Vanité des vanités, tout est vanité, ou dérisoire, absolument dérisoire. Oui, dérisoire, absolument dérisoire, en fonction des traductions. J'aimerais juste partager avec vous deux recensions, on va dire les commentaires de commentaires, deux recensions de deux commentaires sur le livre de l'Ecclésiaste. Le premier et le suivant. À quoi sert la vie, en fin de compte, tout cela se résume-t-il à un filet de vapeur, un souffle, un simple souffle, rien sur lequel on puisse mettre la main, la chose la plus proche de zéro. C'est ce que dit le prédicateur dans le livre de l'Ecclésiaste, mais est-ce là tout le message de l'Ecclésiaste? Deuxième recension, contrairement à certains qui perçoivent le livre comme essentiellement pessimiste ou essentiellement optimiste, un commentateur considère que Coëlette, le principal orateur du livre, contraste délibérément deux perspectives afin de décrire avec vivacité la tension que nous ressentons dans cette vie. Selon lui, Colette juxtapose délibérément la vanité pessimiste résultant d'une observation autonome du monde avec les passages plus optimistes afin d'inciter les lecteurs à réfléchir à la manière de résoudre cette tension par la foi en Dieu. Une tension. Et finalement, oui, on peut se poser la question, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste ou quand on pense juste à vanité, etc., qu'est-ce qui n'est pas vain ou dérisoire dans ce monde? Et pourtant, au chapitre 3, par exemple, il dit « Il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour bâtir. Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Et au chapitre 12, en conclusion, il écrit « Crains Dieu et obéis à ses commandements. » Il y a bien quelque chose à faire avec ce livre de l'Ecclésiaste quand on lit ça, n'est-ce pas? Alors, nous avons déjà lu le texte tout à l'heure, « Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » J'espère que mon message ce matin, que je partageais avec vous, ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Hein. Mais peut-être un pavé dans la mare. Pourquoi pas? Qui sait? Si certains ont déjà eu l'occasion de lire ce texte dans une autre traduction, dans la traduction, par exemple, de la Nouvelle Bible en français courant, la NFC, comme on dit, cette traduction, elle nous livre d'une manière un peu exclusivement orientée vers l'entrepreneuriat dans un cadre très économique. Probablement d'ailleurs lié au contexte contemporain de l'auteur, ce qui n'est certainement pas sans fondement d'ailleurs, parce qu'il est bien question d'un encouragement, d'une exhortation à agir, agir sans relâche, avec persévérance et fidélité, avec confiance en Dieu. Et cela, malgré l'incertitude de la vie et sans craindre de prendre des risques. La lumière de l'Ecclésiaste et de l'ensemble des Écritures, on y perçoit clairement une interpellation à vivre une foi agissante. Après avoir décrit entre autres, de nombreuses voies qui ne mènent nulle part. L'Ecclésiaste met au défi le fils de la sagesse, jette ton pain à la surface de l'eau. Répandre sans distinction, sans être assuré de ce qu'il en adviendra, son propre pain. Le pain, symbole de ce qui est essentiel, n'est-ce pas ? Une exhortation qui semble quelque peu étrange, comme une sorte d'invitation peut-être au gaspillage, jeter son nécessaire, jeter son essentiel. Et de plus, l'image est forte, le jeter sur l'eau. N'est-ce pas un peu absurde comme image, jeter son pain sur l'eau ? Un peu inutile, le pain va couler ou va être mangé par les poissons. Pure perte, quoi. À quoi ça sert ? Peut-être un mot sur l'eau. Dans la Bible, l'eau est tour à tour, un symbole d'ailleurs un peu ambivalent, tour à tour source de vie, ou bien symbole de désordre et de menace, en particulier d'ailleurs dans le cadre de l'Ancien Testament. Donc pour l'Ecclésiaste, bien sûr, la menace, l'insécurité, l'instabilité, les incertitudes, le risque de tout perdre, le chaos, tout ce que nous ne maîtrisons pas. C'est ce que, dans beaucoup de textes dans l'Ancien Testament, nous trouvons comme sens à l'eau. Chers amis, il n'est pas besoin de se faire un grand dessin. Nous vivons dans un monde, et chaque mois qui passe, on a l'impression que c'est pire, dans un monde où l'incertitude est devenue la norme. Les crises économiques, les bouleversements climatiques, les conflits sociaux, les guerres, les défis personnels nous rappellent chaque jour que nous ne contrôlons pas grand-chose, voire peut-être rien. Face à cela, notre instinct naturel est souvent de nous replier sur nous-mêmes, d'attendre des meilleurs moments, des jours meilleurs, de mettre de côté, de suspendre un peu les projets qu'on avait commencé d'avoir, les belles idées, voire les engagements même qu'on avait pris peut-être. C'est ce que nous pouvons observer de nos jours, même dans le monde de l'économie, dans le monde de l'industrie. Combien, à cause de la situation incertaine, freinent des cas de fer leurs investissements, par exemple, pour parler du monde de l'économie. Et pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, peut-être que je me mettrai à servir un peu plus quand j'aurai plus de temps. On va attendre, parce que pour le moment, quand même, j'ai un emploi du temps bien chargé. Un jour, peut-être, oui, mais pour le moment, c'est un peu dur. Peut-être que je donnerai de mon argent quand ma situation financière sera meilleure. Comprenez, aujourd'hui, je viens de me marier, j'ai des enfants, il faut élever les enfants. Ça coûte tellement cher d'élever les enfants. Et puis quand ils vont grandir, il faudra y penser aussi. Ça va prendre du temps, mais quand ça ira mieux, peut-être que je pourrai donner un peu plus. Et puis, peut-être que je prierai un peu plus quand je me sentirai plus spirituel. Et puis, peut-être que je participerai un peu plus aux études bibliques et aux rencontres de prière quand il y aura plus de monde, parce que vous comprenez, si c'est pour être à 3 ou 4, c'est pas drôle. Devant l'avenir, le manque de visibilité, les risques et les incertitudes, y compris à court terme, l'angoisse est palpable. L'angoisse pour nos contemporains, mais pas seulement pour nos contemporains, pour nous-mêmes en tant que chrétiens, l'angoisse existe aussi. Et on peut se poser la question pour tous ceux qui sont inquiets, ceux qui sont désemparés, angoissés, comment prévoir l'avenir ? Comment organiser son demain et son après-demain. Et pourtant, dans ce livre de l'Ecclésiaste, et en particulier dans ce passage, nous sommes exhortés, voire appelés, ici d'une manière précise, à jeter le meilleur de nous-mêmes sur les eaux troubles, à jeter, à mettre à disposition notre temps, nos talents, nos ressources. Et la meilleure manière de donner son pain, son essentiel, c'est de toujours partager, comme le verset 2 nous le rappelle, faire preuve d'une générosité sans retenue, on pourrait presque dire sans réserve, un don tout entier de soi-même. Certains vont dire, attention, entier, qu'est-ce que tu veux dire par entier, hein? Bien, quand on fait quelque chose, on le fait entièrement. On va le dire comme ça, tout simplement. Suis-je prêt à lancer mon pain à la surface des eaux, à partager mes ressources, mes dons, mes talents, mon amour, mon aide, ma compassion, et à les jeter même sur les eaux troubles de ce monde incertain? Oui, pour cela, il faut vraiment une générosité désintéressée. Que je sois vraiment concerné, que je me sente concerné par ma sœur, mon frère en Christ, par mon prochain. Oui, que je me sente concerné. Tout contrairement au gérant malhonnête de la parabole en Luc 16 qui se fait des amis avec l'argent de son maître afin qu'il lui vienne en aide quand il aura perdu son travail. Plutôt intéressé. Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. À quoi l'Ecclésiaste engage-t-il ses lecteurs ? Au gaspillage ? À l'imprudence ? À un pari sur l'avenir ? Je jette le pain sur l'eau pour le retrouver plus tard, quand j'en aurai besoin, à l'image de ce gérant malhonnête ? Ou plutôt au courage, à l'engagement, à une foi solide ? Ancré en Dieu. En situation d'angoisse, d'incertitude, de vulnérabilité même face à ce que nous ne maîtrisons pas, comme l'arbre qui reste à l'endroit où il est tombé. L'Ecclésiaste ne prêche pas l'abandon, le défaitisme ou l'inaction. Il ne prêche pas non plus d'ailleurs l'activisme. Pour essayer, vous savez, l'activisme, ça aide à oublier l'angoisse quelquefois. Non, il prêche, oui, il prêche la prise de risque. Il prêche oser. Osons. Agir, malgré notre manque de visibilité, notre incapacité à tout prévoir, à tout maîtriser, car en effet, nous ne disposons pas de toutes les données pour arrêter des décisions, quelles qu'elles soient. Et si le risque zéro n'existe pas, nous ne sommes pas invités à agir sans sagesse. Pour nous éclairer sur ce risque zéro et la sagesse, je vous propose de lire quelques versets dans le chapitre qui précède au chapitre 10. Je lis les versets à partir du verset 8. Qui creuse un trou risque d'y tomber, qui abat un mur peut être mordu par un serpent, qui arrache des pierres risque de se blesser et qui fend du bois se met en danger. Ça fait peur, hein, on ne va pas prendre de risques. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. La sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Oui, prendre des risques, oser, non pas sans sagesse. Il a aiguisé pour pouvoir travailler plus correctement. Avec le temps, tu le retrouveras après bien des jours. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera, dit Jésus en Marc 8, verset 35. Donner, se donner, c'est bien ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 15:58, c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas vaine n'est pas inutile. Tout n'est pas vain. Et en Galates 6, 9, 10, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Donner et se donner, à l'instar de Jésus-Christ, être sel et lumière, c'est honorer la parole de vie, la parole de Dieu, Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce qu'on jette, ce qu'on sème, ce qu'on donne. Quand on dit « jeter », dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « shalach » se traduit par « jeter » ou « lancer », a aussi le sens d'envoyer, de laisser partir. Quand on jette, normalement, ce n'est pas pour récupérer, on jette, on laisse partir. Oui, nous ne maîtrisons pas ce qui va advenir. Mais Dieu, lui, nous le savons, Dieu souverain, il tient la barre. Il est à l'œuvre. Le prophète Ésaïe, au chapitre 55 de son livre, et au verset 11, dit « Sa parole ne revient jamais sans avoir accompli sa volonté. » Est-ce là notre attente? Est-ce là notre prière? D'ailleurs, quelle place a la prière aussi dans notre don, dans cette semence, dans ce que nous semons? Chers frères et sœurs, ce qui nous nourrit, qui nous fait vivre, qui nous maintient vivants, nous créatures de Dieu, enfants de Dieu, c'est par-dessus tout l'amour de Dieu. Cet amour qui se traduit dans sa providence, sa bonté, sa compassion, sa miséricorde et sa grâce. Les dons de Dieu que nous avons reçus, que Dieu nous a donnés gratuitement, ne sont pas notre propriété. Ils ne sont pas à nous, ces dons. Si nous en étions d'ailleurs à l'origine, ces dons ne seraient qu'éphémères, dérisoires, vanité. Oui, tout disparaîtrait comme la buée, comme une fumée. Dans ce monde agité, complexe, miné par l'injustice et la souffrance, nous sommes appelés à ne pas garder pour nous seuls ce qui nous fait vivre, notre pain, ce qui nous fait vivre, mais à le transmettre. Et l'utilité des nuages, dont il est question dans ce texte, l'utilité des nuages tient au fait qu'ils se vident pour arroser. Ils ne se remplissent pas pour rester pleins, mais pour se vider, pour arroser. Enfants de Dieu, si nous avons quelque chose à transmettre, c'est bien notre espérance, Jésus lui-même. C'est dans une telle dynamique que nous sommes finalement vraiment vivants, vivants pour Dieu. Nous sommes appelés à persévérer, chers amis, dans la générosité, à jeter, lancer, semer sans relâche ce que nous avons reçu, sans calcul et sans parcimonie. Déversons ce que nous avons reçu à l'instar des nuages. Et quoi de meilleur que le message de la croix, l'évangile de Christ, folie pour le monde, mais sagesse de Dieu, l'amour du Dieu qui se donne. Lancer son pain à la surface de l'eau, oui, c'est semer la parole de Dieu dans le monde, la semer en parole et en acte par nos vies. Chers frères et sœurs, par la foi, engageons-nous. Engageons-nous sans être paralysés par le vent et les nuages que nous ne contrôlons pas, en disant « Oh là là, il ne va pas faire bon, je ne peux plus rien faire. » Notre foi en Dieu, nourrie par sa parole, entretenue par une vie de prière consistante, partie intégrante, cette vie de prière, comme la parole, partie intégrante de notre relation avec Jésus, de notre attachement à la personne de Christ, nous permet de porter notre regard avant tout sur ce que nous espérons, sur ce que nous attendons fermement. Jésus lui-même. Notre foi en Dieu, notre attachement à Jésus, encouragé par une vie communautaire authentique. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au chapitre 15, le dit, le rappelle à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres ?» Et il parle à ses disciples. Le « aimez-vous les uns les autres », il n'est pas pour le monde. Le « aimez-vous les uns les autres », il est à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, contrairement à une fausse utilisation qu'on en fait souvent. Il y a le « aimez-vous les uns les autres » à l'intérieur de l'Église, et il y a « aimer son prochain ». Cette vie communautaire nous permet de nous mettre ou de nous remettre en marche, d'aller de l'avant. Dans la mesure où notre foi est solidement ancrée, ferme, notre confiance en Dieu, encouragée par la prière tant individuelle que communautaire, l'emportera sur les inquiétudes, sur les hésitations, sur les difficultés. Nous serons d'autant plus aptes à savourer la vie selon Dieu, sans pour autant méconnaître les malheurs de la vie, les jours de ténèbres, sans ignorer que la vie reste particulièrement fragile et menacée, et en même temps sans être insensible aux souffrances du monde. Notre foi placée en Dieu nous permet de ne pas nous lasser d'accomplir ce qui est bon, juste et droit, comme la parole nous y encourage régulièrement. Notre foi en Dieu favorise une vie relationnelle dynamique, apprenant à gérer toutes les mauvaises raisons qui freineraient notre marche. « Ah, je ne vais pas faire ça maintenant, des fois que ça ne marche pas », etc. Frères et sœurs, enfants de Dieu, fils de la sagesse, s'il est vrai que la prudence est de mise, elle ne doit en aucune raison être un obstacle pour prendre des risques, pour oser aller de l'avant. Ne laissons pas les incertitudes ou les « qu'arrivera-t-il si… » Ne les laissons pas nous retenir ou nous paralyser. Quand un arbre tombe, il ne sert à rien de penser « oh, il aurait été bien préférable qu'il tombe dans une autre direction ». Il nous faut affronter la situation comme elle se présente. Alors, oui, si c'est notre cas, ne passons pas des heures ou des journées, quelquefois, à pleurer sur les « si » et les « mais » de la vie, où c'était mieux avant, etc. Si nous attendons la situation juste comme il faut, comme nous la rêvons, nous ne ferons peut-être jamais rien, en tout cas pas grand-chose. Il nous faut faire, même avec les circonstances défavorables, parfois, le vent, la pluie, un arbre tombé en travers du chemin. Nous ne pouvons jamais être certains de ce qui va arriver en effet, car nous ne sommes jamais totalement maîtres d'une situation, comme nous l'avons dit. Nous ne sommes même pas maîtres de nous-mêmes, même si la maîtrise de soi fait partie du don de l'esprit. Mais ce qui ne veut pas dire que nous sommes maîtres du temps et de notre avenir. Comme l'écrivait l'apôtre Paul, il confessait qu'il n'était pas maître de lui-même en Romains 7, 19. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » C'est pourquoi la prière dans ma vie d'enfant de Dieu, dans notre vie, a toute sa place pour nous renouveler, nous garder dans la bonne motivation, garder nos pensées et nos actions alignées avec la pensée de Dieu lui-même, nous encourageant à persévérer. La parole de Dieu et la prière, ciment de notre marche chrétienne, nous maintiennent éveillés et ouverts à l'écoute de Dieu. Elles transforment notre manière de voir les événements, nous permet de discerner plutôt que de chercher à tout contrôler. La parole de Dieu et la prière nous ancrent dans une relation vivante avec le Dieu souverain. Pour conclure, et au risque de me répéter encore un peu, une foi qui ose est moteur dans l'action. Une foi qui ose est source de courage. Une foi qui ose est antidote à la paralysie. Conscient de notre totale dépendance de Dieu, chers amis, frères et sœurs, qu'on soit jeunes, adultes, plus vieux, osons la foi que Dieu met dans nos cœurs, qui agit sans forcément visibilité, qui sème sans savoir ce que ça donnera, sans voir même la moisson. Une foi qui repose non sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu, notre confiance dans sa fidélité. Osons la foi soutenue par la prière, tant dans le quotidien de nos vies que dans nos projets en Église. Dans un monde où l'incertitude règne, où les vents changent sans prévenir et où les nuages s'amoncellent sans avertir, Dieu nous appelle à agir avec foi. Ce message d'Ecclésiaste 11, 1 à 6 est clair. N'attendons pas que toutes les conditions soient parfaites pour semer, pour donner, pour bâtir. Là où nous sommes, là où nous nous trouvons, et particulièrement en Église, n'attendons pas. Cette exhortation de l'Ecclésiaste nous invite à la générosité sans calcul, à l'investissement sans garantie de retour immédiat. Elle nous pousse à oser, à planter des graines, même si nous ne savons pas quand ni comment elles porteront du fruit. Trop souvent, nous attendons le moment parfait pour nous engager, pour aimer, même pour pardonner tout simplement, ou pour demander pardon, pour donner, ou encore pour commencer ce projet que Dieu a mis sur notre cœur. Vous voyez, nous ne connaissons pas le moment parfait, mais ce que nous connaissons, c'est l'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire maintenant, avec ce que nous avons reçu déjà. Ce texte, chers frères et sœurs, est un véritable appel à la persévérance, à la confiance active en Dieu, en Christ. Nous ne savons pas ce que Dieu fera de nos investissements, mais nous savons qu'il est fidèle. Vivons et semons l'Évangile et laissons Dieu gérer la moisson, avec nous ou sans nous, avec d'autres, mais il gérera la moisson. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, sur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous voulons te bénir, Père éternel, pour ta parole qui nous instruit. Merci pour ce livre de l'Ecclésiaste, pour ce texte que nous avons médité ce matin, qui nous a permis de réfléchir, de développer certaines pensées, et nous savons qu'il y a encore des richesses que nous pourrions trouver dans ce texte. Te bénissons, Père, pour toutes les richesses qu'il y a dans ta parole, la manière dont tu t'es révélé au travers de ta parole, jusqu'à ce que cette parole soit faite chair en Jésus-Christ. Béni sois-tu, notre Dieu, pour l'œuvre de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre et aujourd'hui, à la droite du Père, intercédant pour son Église et pour celles et ceux que tu sauveras encore. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette œuvre magistrale, pour ta présence au milieu de nous et avec chacun d'entre nous, Seigneur, au quotidien, jour après jour. Père, donne-nous d'être ceux qui osent, qui sont courageux, qui avancent, qui ont pleinement confiance en toi, que toi, tu soutiendras. Et Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole et la prière qui nous permettent de nous approcher de toi, de rester en relation étroite avec toi, grâce à l'œuvre de Christ. Et ainsi, Seigneur, d'être éclairé aussi dans ce que nous faisons, sachant que toi, tu réponds à la prière. Te bénissons, notre Dieu, en Jésus-Christ.